James. Un portrait de femme. Chapitre 50. Comme la comtesse Gemini ne connaissait pas les monuments anciens, Isabelle s'offrait de temps à autre à lui faire visiter ces intéressantes reliques et à donner un but historique à leur sortie quotidienne. La comtesse, qui tenait volontiers sa belle-sœur pour un prodige de science, ne soulevait jamais d'objection et regardait des piles de maçonnerie romaine avec autant de patience que si c'eussent été des monceaux de draperie moderne. Elle ne possédait aucun sens historique, bien qu'elle eût par certains côtés celui de l'anecdote et une propension à l'apologie en ce qui concernait sa propre personne, mais dans son ravissement d'être à Rome, elle ne demandait qu'à s'abandonner au fil du courant. Elle eût volontiers passé une heure par jour dans l'humide obscurité des thermes de Titus si elle avait pu, à cette condition, prolonger son séjour au Palazzo Rocanera. Isabelle ne faisait d'ailleurs pas un cicérone sévère. Elle visitait surtout les ruines pour le prétexte qu'elle lui offrait de parler d'autre chose que des histoires d'amour florentine, sujet sur lequel sa belle-sœur se montrait intarissable. Ajoutons qu'au cours de ses visites, la comtesse s'interdisait toute forme de curiosité personnelle. Elle restait de préférence assise dans la voiture et s'extasiait sur l'intérêt puissant de tout ce qui l'entourait. C'est de cette façon qu'elle avait jusqu'ici contemplé le Colisée, au profond regret de sa nièce qui, avec tout le respect qu'elle lui devait, ne voyait pas ce qui l'empêchait de descendre de voiture et d'entrer dans le monument. Pensée avait si peu de liberté que son appréciation n'était pas tout à fait désintéressée. On comprendra son secret espoir qu'une fois dans l'enceinte, la comtesse se laissa entraîner à grimper jusqu'à l'étage supérieur. Un jour vint où la comtesse se déclara prête à entreprendre cet exploit. Un doux après-midi de mars où le mois venteux s'exhalait en bouffées brusques de printemps. Les trois dames entrèrent ensemble dans le Colisée, mais Isabelle quitta ses compagnes pour parcourir seule l'immense vaisseau. Elle avait souvent escaladé ces travées désertes d'où la foule romaine hurlait ses applaudissements, et où maintenant les fleurs sauvages poussent quand on les y tolère dans les crevasses profondes. Ce jour-là, elle se sentait lasse et voulait s'asseoir sur l'arène vide. C'était aussi un répit, car la comtesse demandait volontiers plus d'attention à ses interlocuteurs qu'elle ne leur en accordait, et Isabelle espérait que, seule avec sa nièce, elle laisserait un moment retomber la poussière sur les anciens scandales de l'Arnide. Elle resta donc en bas, tandis que Pensée dirigeait les pas indifférents de sa tante vers le rapide escalier de briques, au pied duquel le gardien déchaîne la haute porte de bois. La vaste enceinte était à demi plongée dans l'ombre. Le soleil d'ouest avivait le ton rouge pâle des gros blocs de travertin, couleur assoupie qui représente le seul élément de vie de l'immense ruine. Çà et là errait un paysan ou un touriste, les yeux levés vers la lointaine ligne de ciel où, dans la claire solitude, virait et plongeait sans cesse une nuée d'hirondelles. Isabelle s'aperçut tout à coup qu'un des visiteurs, planté au milieu de l'arène, fixait son attention sur elle et la regardait avec une certaine pose cavalière de tête qu'elle avait quelques semaines plus tôt jugée caractéristique d'un désir contrarié mais indestructible. Pareille attitude ne pouvait appartenir qu'à Monsieur Édouard Rosier, et ce jeune homme montra en effet qu'il venait de décider de s'adresser à elle. Lorsqu'il se fut assuré qu'Isabelle était seule, il s'approcha en déclarant que si elle ne voulait pas répondre à ses lettres, elle n'allait peut-être pas opposer la sourde oreille à son éloquence. Elle répliqua que sa belle-fille étant dans le voisinage, elle n'avait que 5 minutes à lui accorder, sur quoi, sortant sa montre, il s'assit sur un bloc de pierre brisé. « L'histoire n'est pas longue, fit Édouard Rosier. J'ai vendu tous mes bibelots. » Isabelle poussa instinctivement un cri d'horreur, comme s'il lui avait dit s'être fait arracher toutes les dents. « On les a vendus aux enchères à l'hôtel Drouot, poursuivit-il. Il y a 3 jours que la vente a eu lieu, et l'on m'a télégraphié le résultat. Il est magnifique. »« Je suis heureuse de l'apprendre, mais j'aurais voulu que vous gardiez votre jolie collection. J'ai l'argent à la place, 50 000 $. Monsieur Osmond me trouvera-t-il assez riche maintenant ?»« C'est cela qui vous a décidé ?» demanda doucement Isabelle. « Pour quelle autre raison l'aurais-je fait ? C'est la seule chose qui m'intéresse. Je suis allée à Paris et j'ai tout arrangé. Je ne pouvais pas assister à la vente et voir disperser mes chers trésors. Je crois que j'en serais mort. Mais je les ai mis en bonne main et ils ont atteint de gros prix. Il faut que je vous avoue pourtant que j'ai conservé mes émaux. Maintenant j'ai l'argent en poche et il ne pourra plus me reprocher d'être pauvre, » s'écria le jeune homme d'un ton de défi. « Il vous accusera de n'être pas raisonnable, » objecta Isabelle, comme si Gilbert Osmond n'avait pas déjà formulé ce reproche. Rosier lui lança un coup d'œil pénétrant. « Voulez-vous dire que sans mes bibelots je ne suis plus rien, qu'ils étaient le meilleur de ma personne ? C'est ce que l'on m'a déclaré à Paris avec une belle franchise, mais ces gens-là n'avaient pas vu penser. « Mon cher ami, vous méritez de réussir, » fit Isabelle avec une grande douceur. « Vous dites cela si tristement que cela revient à dire que vous n'y croyez pas. » Et il plongea dans les yeux d'Isabelle l'anxiété de son regard naïf. Il avait la mine d'un homme qui, pour avoir été pendant une semaine l'objet des entretiens de Paris, se sent grandi d'une bonne demi-tête, mais qui garde l'impression pénible que, malgré cet accroissement de stature, quelques personnes ont encore la perversité de le trouver très petit. « Je sais ce qui lui est arrivé pendant mon absence, » reprit-il. « Qu'espère M. Osmond maintenant qu'elle a refusé Lord Warburton ?» Isabelle hésita. « Qu'elle épousera un autre membre de la noblesse ?»« Quel autre ?»« Celui qui lui désignera. » Rosier se leva lentement et glissa sa montre dans son gousset. « Vous vous moquez de quelqu'un, et cette fois je ne crois pas que ce soit de moi. »« Je n'avais pas l'intention de moquerie, » dit Isabelle. « Cela m'arrive rarement, et maintenant mieux vaut vous éloigner. » « Je me trouve très bien ici, » déclara Rosier sans bouger. C'était possible, mais il prenait un redoublement d'aplomb dans ces mots prononcés à voix haute, en se haussant avec une certaine complaisance sur la pointe des pieds et en regardant tout autour du Colisée, comme s'il eût été plein de spectateurs venus pour l'entendre. Tout à coup, Isabelle le vit changer de couleur. Il y avait plus de spectateurs qu'il ne l'avait supposé. Elle se retourna et vit que ses deux compagnes avaient achevé leur expédition. « Il faut vraiment vous éloigner, » ordonna-t-elle d'un ton péremptoire. « Ah, chère madame, ayez pitié de moi, » murmura Édouard Rosier, sur un ton singulièrement différent de celui que nous venons de signaler. Puis il ajouta vivement, comme un homme qui trouve au milieu de sa détresse une inspiration heureuse. « Cette dame est-elle la comtesse Gemini? J'aimerais beaucoup lui être présentée. » Isabelle le regarda un moment. « Elle n'a aucune influence sur son frère. »« Ah, quel monstre vous faites de cet homme !» Et Rosier se tourna vers la comtesse qui précédait de quelques pas sa nièce, avec une animation due peut-être au fait qu'elle voyait sa belle-sœur engagée dans une conversation avec un très joli jeune homme. « Je me réjouis que vous ayez conservé vos émaux, » dit Isabelle en quittant Rosier. Elle se dirigea vers Pensée qui, à la vue du jeune homme, s'était arrêté court, les yeux baissés. « Nous allons remonter en voiture, » fit doucement Isabelle. « Oui, il se fait tard, » acquiesça Pensée avec plus de douceur encore. Et elle s'éloigna sans un murmure, sans une hésitation ou un geste pour se retourner. Quant à Isabelle, qui n'avait pas de raison de ne pas se retourner, elle fut témoin de la rencontre de la comtesse et de M. Rosier. Il avait ôté son chapeau en souriant pour se présenter lui-même, tandis que le dos expressif de la comtesse lui répondait par une inclinaison gracieuse. Isabelle n'en vit pas davantage, car elle prit place dans la voiture avec Pensée. La jeune fille, qui s'était assise en face d'elle, garda un moment les yeux fixés sur ses genoux, puis elle les releva pour rencontrer ceux de sa belle-mère. Il y avait en eux un petit rayon mélancolique, une étincelle de timide passion qui toucha Isabelle jusqu'au cœur. En même temps, elle sentait une bouffée d'envie souffler sur son âme, en comparant le désir tremblant, l'idéal défini de l'enfant à la sécheresse de son propre désespoir. « Pauvre petite Pensée, » fit-elle avec tendresse. « Oh, ne vous tourmentez pas !» répondit Pensée sur un ton d'instant excuse. Puis le silence retomba, la comtesse se faisait attendre. « Avez-vous montré à votre tante tout ce qu'il y a à voir, et s'y est-elle intéressée ?» finit par demander Isabelle. « Oui, je lui ai tout fait voir, et je crois qu'elle a été très contente. J'espère que vous n'êtes pas lasse ?»« Pas du tout, je vous remercie. » La comtesse ne paraissant toujours pas, Isabelle pria le valet de pied d'aller l'avertir dans le Colisée qu'on l'attendait. Il revint presque aussitôt annoncer que la signora Contessa priait qu'on ne l'attendît point et rentrerait en fiacre. Une semaine environ après la prise de contact entre cette dame et M. Rosier, Isabelle, montant un peu tard s'habiller pour le dîner, trouva Pensée assise dans sa chambre. La jeune fille semblait l'attendre et se leva de sa chaise basse. « Pardonnez-moi d'avoir pris cette liberté, » fit-elle d'une voix timide. « Ce sera la dernière, de quelque temps. » Son accent était étrange, et ses yeux larges ouverts avaient un regard apeuré. « Vous ne nous quittez pas !» s'écria Isabelle. « Je vais au couvent. » « Au couvent ?» Pensée se rapprocha d'Isabelle, et passant les bras autour de son cou, appuya la tête sur son épaule. Elle demeura un moment dans cette attitude, sans faire un mouvement, mais Isabelle la sentait trembler. Le frémissement de son petit corps exprimait tout ce qu'elle ne pouvait dire. Cependant Isabelle la pressa. « Pourquoi allez-vous au couvent ?» Parce que c'est le désir de papa. Il dit qu'une jeune fille se trouve bien d'aller de temps en temps faire une petite retraite, Il dit que le monde, toujours le monde, ne vaut rien pour elle. Un séjour au couvent fournit une occasion de silence, de réflexion. Pensée parlait par petites phrases saccadées, comme si elle avait eu peine à se dominer. Mais elle fit un grand effort et conclut en triomphant de son trouble. « Je crois que papa a raison. J'ai beaucoup été dans le monde cet hiver. » Cette nouvelle fit une étrange impression à Isabelle, qui crut y discerner un sens plus profond que ne le soupçonnait la jeune fille. « Quand cette décision a-t-elle été prise ? » demanda-t-elle. « Je n'en ai rien su. » « Papa m'en a fait part tout à l'heure. Il pensait que mieux valait n'en pas trop parler à l'avance. Maman Catherine doit venir me chercher à 7h15, et je n'emporterai que 2 robes. Il s'agit seulement de quelques semaines, et je suis sûre que ce sera une très bonne chose. Je vais retrouver toutes ces dames qui étaient si bonnes pour moi, et je verrai les petites filles qu'on élève au couvent. J'aime beaucoup les petites filles, » dit Pensée avec un ton d'importance qui semblait la réduire encore. « Et j'aime beaucoup aussi maman Catherine. Je serai très tranquille et j'aurai le temps de penser. » Isabelle l'écoutait, un peu oppressée et presque épouvantée de ce qu'elle entendait. « Pensez à moi quelquefois, » dit-elle. « Ah, vous viendrez bientôt me voir, » s'écria Pensée, sur un ton très différent de celui des observations héroïques qu'elle venait de faire. Isabelle ne put rien ajouter. Elle ne comprenait pas et sentait seulement combien elle connaissait encore peu son mari. Pour toute réponse, elle embrassa longuement et tendrement la jeune fille. Une demi-heure plus tard, sa femme de chambre l'informait que Madame Catherine était arrivée en voiture et repartie avec la signorina. Entrant dans le salon avant le dîner, elle y trouva sa belle-sœur seule, et la comtesse qualifia l'incident en déclarant avec un magnifique hochement de tête « En voilà, ma chère, une pause !» En fait de pause, Isabelle ne vit pas très bien pourquoi posait son mari. Elle concevait seulement d'obscures façons qu'il avait plus de tradition qu'elle ne l'avait cru. Elle prenait si grand soin depuis quelque temps de peser tout ce qu'elle lui disait, que, malgré l'apparente étrangeté de ce silence, elle hésita plusieurs minutes à faire allusion au départ de Pensée et ne s'y décida que lorsqu'ils furent assis à table. Elle s'était d'ailleurs interdit de jamais poser une question à Osmonde et ne pouvait se risquer qu'à une affirmation. Ce qu'elle put trouver de plus naturel à dire, ce fut « Pensée va beaucoup me manquer ». Il considéra un moment, en penchant légèrement la tête de côté, la corbeille de fleurs du milieu de table. « C'est vrai, » fit-il enfin, « et j'y avais pensé. Vous irez la voir, bien entendu, mais pas trop souvent. Vous vous demandez probablement ce qui m'a décidé à la confier aux bonnes sœurs, mais je doute de pouvoir vous le faire comprendre. Peu importe, ne vous en inquiétez pas. C'est pourquoi je ne vous ai pas parlé de mon projet, auquel j'étais certain que vous ne sauriez vous associer. C'est une idée que j'ai toujours eue, et qui me paraît essentielle dans l'éducation d'une jeune fille. Il faut qu'une jeune fille soit fraîche et belle, aussi bien qu'innocente et douce. Avec les manières de notre époque, elle risque de se faner et de prendre la poussière. Pensée est un peu poussiéreuse, un peu chiffonnée, a été un peu trop secouée. Cette cohue bruyante et chaotante qui s'appelle le monde, il faut l'y soustraire de temps à autre. Les couvents font des retraites très paisibles, très commodes, très salutaires. J'aime voir en Pensée ma fille dans ce vieux jardin, sous les arcades, parmi des femmes tranquilles et vertueuses. Nombre d'entre elles sont de bonne naissance, plusieurs sont nobles. Pensée aura ses livres et sa peinture, sans compter son piano. J'ai pris les dispositions les plus libérales en sa faveur. Il n'y aura rien d'ascétique dans sa retraite, tout au plus une nuance de séquestration. Elle aura du temps pour méditer, et il y a un sujet auquel je veux qu'elle réfléchisse. » Osmonde parlait d'un ton calme et posé, en penchant toujours la tête de côté comme pour regarder la corbeille de fleurs. Son accent était moins celui de l'homme qui donne une explication que celui qui traduit un fait en mots, presque en images, pour mieux en saisir lui-même le sens. Il contempla un moment le tableau qu'il venait d'évoquer et en parut satisfait. Puis il reprit. « Les catholiques sont bien sages, en somme, et le couvent est une belle institution dont on ne saurait se passer. Il répond à un besoin essentiel des familles et de la société. C'est une école de bonne manière, une école de repos. « Oh, je ne veux pas détacher ma fille du monde, » déclara-t-il, « ou lui faire attacher ses pensées à un autre. Celui-ci me convient fort bien si elle le prend du bon côté, et elle y peut penser tout à son aise. Seulement, je veux qu'elle y pense comme il faut. » Isabelle écouta avec une grande attention cette petite profession de foi qui lui parut singulièrement intéressante. Elle découvrait jusqu'où le désir des faits pouvait pousser son mari, jusqu'au point de soumettre à des données théoriques le délicat organisme de sa fille. Sans saisir tout à fait son dessein, elle le pénétrait mieux qu'il ne le supposait ou ne le souhaitait, en ce qu'elle voyait dans toute cette affaire une mystification soigneusement préparée à son intention et destinée à agir sur son imagination. Il souhaitait faire un geste brusque et arbitraire, inattendu et raffiné, marquer les différences entre leurs goûts et montrer que s'il tenait sa fille pour une œuvre d'art précieuse, il était fondé à apporter de plus en plus de soins à ses touches finales. S'il voulait faire de l'effet, il avait réussi. L'incident fit courir un froid de glace dans le cœur d'Isabelle. Pensée avait connu le couvent de son enfance et s'y était trouvée heureuse. Elle aimait les bonnes sœurs qui, en retour, la chérissaient. Et son sort ne présentait donc pour l'instant aucune rigueur particulière. Pourtant, elle n'en avait pas moins conçu de la crainte, et l'impression que son père voulait faire sur elle promettait d'être vive. La vieille tradition protestante ne s'était jamais effacée de l'esprit d'Isabelle, et tandis que ses pensées s'attachaient à ce frappant exemple du génie de son mari, elle regardait comme lui la corbeille de fleurs, elle se représenta la pauvre petite pensée en héroïne de tragédie. Osmonde voulait que l'on sût bien qu'il ne reculait devant rien, et sa femme eut peine à faire bonne contenance à table. Ce lui fut une sorte de soulagement d'entendre la voix haute et pincée de sa belle-sœur. La comtesse avait, elle aussi, dû réfléchir à la situation, non sans arriver à une conclusion différente de celle d'Isabelle. « Il est bien absurde, mon cher Osmonde, dit-elle, d'inventer tant de jolies raisons pour l'exil de la pauvre pensée. Pourquoi ne pas dire tout de suite que vous voulez la soustraire à mon influence ? Vous vous êtes aperçu que je me suis fait une excellente opinion sur le compte de M. Rosier. C'est vrai, il me paraît simpaticissimo. Il m'a fait croire au véritable amour auquel je n'avais jamais cru jusqu'ici. Vous avez évidemment conclu qu'avec une pareille conviction, ma société représente un danger pour la pauvre pensée. » Osmonde but une gorgée de son verre. Il avait un air de parfaite bonne grâce. « Ma chère Amy, répondit-il en souriant, comme s'il eût proféré une amabilité, j'ignore tout de vos convictions, mais si j'avais l'impression qu'elles contredisent les miennes, il serait tellement plus simple de vous bannir, vous,